Bienvenue à la Bibliothèque des Champs Libres. Nous allons avoir le plaisir de découvrir quelques-uns des bonheurs de lecture d'Étienne Davodeau. Merci à lui. Merci également à la librairie du Forum de nous accompagner sur cette rencontre et de vous proposer à l'achat les livres qui vont vous être présentés. Il y a juste un petit bémol, c'est que la bibliothèque ferme à 19h. Il est 18h, la rencontre avec Étienne dure 45 minutes, donc il faudra acheter vite et bien si vous voulez acheter. Mais vous pouvez retrouver la librairie demain dans le hall des Champs Libres. Donc voilà, les livres seront disponibles à l'achat également demain. Voilà. Pas de précipitation. Voilà, très bonne écoute et belle rencontre.
Merci. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Bonsoir à tous. Donc on va faire ça dans les clous. Hein. On va respecter les temps de travail des employés des lieux, évidemment. Donc, comment va-t-on procéder? Je vais simplement prendre la pile telle qu'elle m'a... Alors, c'est des livres que j'ai choisis, évidemment, mais la pile m'est proposée comme ça, donc je vais prendre les livres au fur et à mesure. N'hésitez pas à m'interrompre, à me contester et à faire tout le bruit que vous voulez. Donc, on m'a demandé, moi, de choisir une série de livres qui sont chers à mon cœur. Alors, si on m'avait demandé ça la veille ou le lendemain, ça aurait été sans doute d'autres livres. Mais ce jour-là, le jour où on m'a proposé cette liste, j'ai cherché comme ça de façon un peu instinctive ceux qui m'avaient plu récemment ou il y a longtemps ou qui avaient été importants pour moi. Et c'est la pile qui est là. Mais je lis pas mal de bandes dessinées et d'autres livres. Et donc, ces choix-là, ils sont extrêmement fluctuants. D'un jour à l'autre, un livre qui m'a plu serait relégué au 10e rang et le lendemain, il serait le premier. En tout cas, le jour où on m'a contacté, j'ai proposé dans l'ordre. Non, pas dans l'ordre, justement. Alors, c'est un peu emmerdant parce que Hervé Le Tellier a eu le prix Goncourt, donc maintenant il est assez connu, mais pendant longtemps il a été un auteur assez discret. Et son livre qui s'appelle « Moi et François Mitterrand » est un livre court, ce qui est une sorte de politesse, je trouve, les livres courts. Mais c'est un livre surtout hyper drôle puisque c'est une conversation, même pas imaginaire, puisque c'est un monologue, c'est l'histoire d'un personnage qui envoie des lettres à François Mitterrand, le vrai François Mitterrand, qui évidemment ne lui répond pas. Et le but du jeu dans ce livre, c'est d'imaginer quand même cette conversation. C'est-à-dire que François Mitterrand est très occupé, forcément, parce qu'il a des tonnes de choses à faire. Il est accessoirement président de la République, ou avant ou après, il fait encore autre chose. Et donc Hervé Le Tellier est très, très compréhensif sur le fait de ne pas recevoir de réponse. Et c'est le récit de cette correspondance en sens unique, qui est assez fascinante, parce que ça pourrait tomber vite à plat, et ça retombe, même si le livre est court, ça ne tombe jamais à plat. Hervé Le Tellier, alors il a fait comment s'appelle son concours, l'Anomalie, c'est ça, qui est formidable, absolument formidable, mais bon, on va pas faire l'article sur le concours. Mais il fait aussi partie de l'Oulipo, l'ouvroir de littérature potentielle, qui est cette association d'écrivains qui essaie de se mettre eux-mêmes des contraintes pour arriver à des formes littéraires qui ne seraient pas arrivées sans ces contraintes-là. C'est-à-dire qu'en s'imposant des contraintes invraisemblables, on essaye de produire du récit qui, forcément, est très différent de ce qu'on aurait produit sans les contraintes. La plus célèbre, évidemment, c'est La Disparition, qui est ce roman intégralement écrit sans la lettre E, ce qui est un véritable tour de force en français. Et Le Tellier fait partie de cette veine-là. Moi et François Mitterrand n'est pas tout à fait dans cette veine-là, mais quand même, c'est quand même une sorte de contrainte de faire une correspondance avec quelqu'un qui ne vous répond pas. Voilà, mon premier choix. C'est très amusant, c'est très fin. Et moi, j'adore ça. Donc, Hervé Le Tellier, moi et François Mitterrand, chez Folio. Je vous donne pas le prix parce que j'ai pas mes lunettes, mais enfin, c'est pas cher. voilà. Un deuxième choix. Alors là, j'ai pris un de ses romans les plus emblématiques, mais j'aurais pu presque prendre n'importe quel roman de Jean-Patrick Manchette. C'est du polar. En tout cas, ce sont des romans qui sont publiés dans la série noire essentiellement, à l'origine. Là, c'est Folio Policier, mais les premiers tirages étaient dans la série noire. Jean-Patrick Manchette est un auteur de polar. La question qui se pose quand je lis ce genre de livre, c'est où la frontière entre la noire et la blanche? C'est du polar, il y a tous les ingrédients du polar. Mais il y a aussi un style littéraire au scalpel qui est absolument formidable, qui fait qu'à la fois publier ce livre-là dans la série noire, c'est une façon de l'identifier qui est bien pratique et puis qui est tout à fait légitime, mais qui en même temps lui impose presque une limite éditoriale. C'est-à-dire que pour moi, c'est bien plus que... Enfin, c'est du polar, mais plus que ça. C'est de la vraie bonne littérature. Manchette a écrit et traduit beaucoup de... On lui doit, entre autres, la traduction des grands auteurs de polar américains. Il était traducteur autant que romancier. Il est mort assez jeune. Et moi, ce qui me fascine chez Manchette, outre son acuité politique, il raconte beaucoup les milieux... dans les années 60-70, cette zone intermédiaire entre la pègre et les milieux un peu radicaux. Mais il pourrait me raconter n'importe quoi d'autre que ça m'irait bien, tellement son style est d'une sécheresse, d'une efficacité absolument limpide. C'est vraiment ce qu'on appelle le behaviorisme ou l'écriture comportementaliste, c'est-à-dire que jamais il ne fait de psychologie. Mais dans les attitudes et les faits décrits de façon très frontale, il y a tout ce qui peut se passer dans la tête des personnages qui l'animent. Ce sont souvent des personnages assez frustes, il y a beaucoup de violence. C'est du polar, hein, donc il y a toutes les règles du polar. Mais il y a chez Manchette, alors comme chez beaucoup d'autres qui sont, j'allais dire à sa remorque, c'est un peu cruel, mais qui sont un peu dans sa veine, mais qui sont probablement moins brillants. En tout cas, de mon point de vue, c'est un des plus brillants en France. Il a cette écriture sèche, zéro gras. C'est-à-dire qu'il n'y a que des informations utiles et ça fait une espèce de... C'est très facile à lire, me semble-t-il. On ne s'y enlise jamais. Et en même temps, ça marque au fer rouge. C'est-à-dire que c'est écrit tellement de façon tranchante qu'on a l'impression qu'il n'y a pas grand-chose. Et quand on a fini le livre, on est marqué pour longtemps. Donc tous les livres de Manchette font partie de cette rare catégorie de livres que je relis. Je relis Manchette depuis 20 ans. La plupart de ses livres étaient donc en série noire. Il y a aussi ses correspondances qui ont été publiées. J'ai oublié chez qui, tiens. Il a fait des textes sur le théâtre. Il a fait des critiques aussi de littérature qui étaient vachement bien parce qu'absolument pas diplomatique. C'est de la vraie critique. C'est-à-dire qu'il pensait que, lui, que l'amour du métier était au-dessus de la camaraderie de métier. Et donc, il parlait des livres qu'il critiquait de façon extrêmement sincère, y compris si c'était des livres d'amis ou de confrères estimés par ailleurs. Et ça fait toute la valeur de ces témoignages. Cache ta joie, c'est une recueil de chroniques, de critiques, de romans et de théâtre, de mémoire. Donc on peut même lire ces chroniques. C'est souvent des films, des pièces de théâtre que j'ai pas vues, mais je lis ces chroniques et ces critiques avec la même délectation de ces polars parce que son style est là. Et même si je me fous un peu de la pièce dont il me parle parce que je l'ai pas vue, j'adore la façon dont il en parle. Il a une façon d'être méchant et cruel qui est formidablement réjouissante. Parce qu'il tape au cordeau, il n'en fait jamais trop. Et c'est ce qu'on trouve aussi dans ses romans. C'est-à-dire que minimum d'effet, maximum d'efficacité. Jean-Patrick Manchette, vous lisez n'importe quoi, c'est presque bien, toujours. Alors c'est assez ancien, hein, ça a déjà quelques décennies, tout ça. Plus discret, sans doute. Beaucoup plus discret, même, je crois, en termes de succès éditoriaux. Je suis très sensible aux univers développés par Hubert Mingarelli, qui est un auteur décédé il y a quelques années. La beauté des loutres est un de ses romans que je préfère. Il y a une sorte, la pile fait que je vous présente Mingarelli après Manchette, mais il y a une sorte de pas de cousinage parce qu'ils sont très très différents. Là où Manchette est implacable, Mingarelli est subtil et délicat. Mais il n'empêche que, en termes d'écriture comportementaliste, ils ont ce voisinage-là. Les gens que met en scène Mingarelli sont des gens souvent très simples, des gens qui sont un peu démunis face au monde moderne, qui vivent dans le dénuement. Il vient de la littérature jeunesse, je crois, Mingarelli, mais j'ai jamais lu ce qu'il a fait pour la jeunesse. Ces romans-là, de la même façon qu'on dit que Manchette, c'est de la noire ou de la blanche, c'est peut-être de la littérature pour jeunes ou pas, je ne sais pas. C'est juste des très bons livres. C'est juste des très bons livres. Et Mingarelli avait cette capacité assez fascinante de nous tenir en haleine sur un type qui va livrer des moutons en camion. Voilà, je viens de vous faire le pitch du livre. Ou sur un type qui hésite à, à repeindre ses volets. Mais c'est ces petits détails de la vie quotidienne des gens qui sont dans le doute, qui n'arrivent pas trop à se décider, qui ne comprennent pas trop ce qui leur arrive. Je ne vous le vends pas bien parce que c'est compliqué à expliquer. Faites-moi juste confiance. lisez Hubert Mingarelli, parce que moi, j'y trouve quelque chose qui, pour un auteur de bande dessinée, est très, très hypnotisant, c'est que ça génère des images avec une précision diabolique. Il ne nous parle que de choses extrêmement ténues et fines. Il n'y a pas de coup de théâtre, il n'y a pas de personnage flamboyant, il n'y a rien de tout ce qu'on peut espérer dans de la littérature un peu spectaculaire. Mais je connais peu d'auteurs de romans capables de fabriquer des images mentales aussi précises et aussi belles que Mingarelli. Et il a publié pas mal de romans qui sont souvent assez courts aussi. Il y en a un qui s'appelle Quatre soldats, par exemple, qui est vachement bien. J'ai pas lu de roman de Mingarelli qui m'ait déçu. Vous savez, souvent, quand on découvre un auteur qui nous plaît, on se précipite sur ses romans précédents ou ses romans suivants, et puis on se dit « Ok, j'ai compris ce qu'il fait ». Puis avec le temps, l'enthousiasme qu'on avait à aller lire s'étiole. Chez Mingarelli, non. Pour ce qui me concerne, non. À chaque fois que j'ai ouvert un livre de Mingarelli, j'ai été surpris, parce que c'est jamais exactement la même chose, même si c'est toujours cette même petite musique extrêmement fine, subtile, précise. Et c'est probablement un de mes romanciers préférés. C'est un de mes romanciers préférés. Voilà pour Mingarelli. Alors dans le genre auteur discret, bon là on tombe mal, Georges Brassens, ça vous parle ou pas? Alors j'ai avec Brassens un rapport un peu particulier, mais ça, oui, alors c'est pas seul, oui, ça c'est les poèmes et chansons, d'accord. Il y a un livre que je voulais vous conseiller initialement, on m'a dit qu'il était plus disponible, c'est bien dommage, c'est Les Lettres à Toussenot. C'est un livre qui était publié aux éditions textuelles il y a quelques années. Les Lettres à Toussenot, sous forme de livre, n'existent plus, mais je sais qu'elles ont été intégralement republiées dans l'intégrale des textes de Brassens que le Cherche Midi a publié il y a quelques années. C'est un petit pavé épais comme ça. Il y a tout dedans. Il y a sa correspondance, les textes de ses chansons, ses quelques romans avortés, on en reparlera, ou pas. Et puis Les Lettres à Toussenot. Alors avant de vous parler des Lettres à Toussenot, il faut que je vous parle de Brassens, évidemment, parce que, bon, je ne vais pas vous présenter Brassens, ça c'est un petit peu con, mais je vais juste vous raconter cette petite histoire, c'est que j'ai eu l'occasion, moi, d'adapter un livre de Brassens en bande dessinée. Je ne pratique pas l'adaptation en bande dessinée, j'ai pas de raison de le faire, j'ai envie d'écrire les histoires que je dessine, mais c'est trouvé un jour, il y a quelques années, que, avec mon camarade David Prudhomme, qui est un auteur de bande dessinée aussi, on savait qu'on aimait tous les deux beaucoup Brassens. On savait que quand on appelait l'autre, souvent en fond, au téléphone, on entendait les chansons de Brassens qui passaient. Et un jour, David m'a dit qu'il avait trouvé un exemplaire de La Tour des Miracles. La Tour des Miracles, c'est un roman que Brassens a écrit avant de connaître le succès en tant que chanteur. C'est en 1950. Brassens a commencé à vraiment être connu en 52-53 en tant que chanteur. Mais il écrivait beaucoup, Brassens. Il écrivait pour lui, pour le plaisir, et pour faire marrer ses copains, il a écrit un roman qui s'appelle La Tour des Miracles, qu'il a auto-édité, si on peut appeler ça comme ça à l'époque, avec une fausse couverture de la NRF, parce que c'était rigolo. C'est un roman assez bordélique. Je suis extrêmement brassensophile, donc je me permets de dire, pardon Georges, que La Tour. Et lui-même disait qu'il a fait ça pour faire rire ses copains, que c'est plein de fautes, mais que voilà, c'est un exercice intéressant. Et moi, donc, j'ai lu La Tour des Miracles que je cherchais en vain parce que mon copain David me l'a trouvé. Et avec David, on a eu cette idée un peu dingo. On s'est dit, mais en fait, puisque La Tour des Miracles n'est plus disponible, et puis que ce roman a cette formidable capacité, comme les bouquins de Mingarelli dont je viens de vous parler, de générer des images, et qu'on est tous les deux auteurs de bande dessinée, on va adapter La Tour des Miracles en bande dessinée. Bon, une fois qu'on a dit ça, il reste des tonnes de choses à faire. Mais en tout cas, cette idée, cette envie nous a pris. Et La Tour des Miracles, c'est un roman qui est un petit texte, hein, c'est pas ce que Brassens a fait de mieux, mais dans La Tour des Miracles, à la fin des années 40, début des années 50, il y a en germe presque l'intégralité. En germe, je dis bien, ça n'existe pas sous leur forme finale, mais l'intégralité des germes de toutes ces chansons à venir. Il y a des scènes de bagarre sur un marché, il y a des flics maltraités, il y a des histoires de copains, il y a des histoires de chats. Et simplement, il a écrit ça au fil de la plume, il y a des incohérences. Et pardon, encore une fois, de dire ça de Brassens, mais c'est pas grave, parce qu'il y a une énergie là-dedans qui est assez, assez marrante. Et comme le livre n'était plus disponible sous sa forme initiale, eh ben, on est allé voir le neveu de Brassens, qui est l'ayant droit de Brassens, qui s'appelle Serge Cazzani. Et puis on lui a dit, ben voilà, notre projet, on arrive de deux jeunes autres, enfin jeunes, oui, c'était il y a une vingtaine d'années. On est amoureux de Georges et on voudrait adapter ce livre qui n'existe plus en bande dessinée. Je vous la fais courte, il a accepté. Il nous a dit qu'il faut quand même que vous ayez le feu vert de Gibraltar. Gibraltar, c'était le secrétaire particulier et l'ami proche de Brassens. Pas légalement, puisqu'on avait le feu vert de l'ayant droit, on pouvait. Mais moralement, si j'ose dire, il fallait qu'on ait le feu vert de Gibraltar. Et donc, on est allé voir Gibraltar, qui vivait dans la maison de Brassens, impasse Florimont, chez Jeanne, chez le menuisier Planche, les gens qui l'ont accueilli pendant la guerre. Et avec David, on parle souvent de ce moment un peu étrange où on s'est trouvé dans la cuisine de Brassens avec les yeux tout rouges. Et où on parlait à Gibraltar pour lui expliquer ce qu'on allait faire. Et puis Gibraltar nous a dit, bah ouais, formidable, faites donc. Et puis on a adapté la Tour des Miracles qui existe sous forme de bande dessinée. Donc, je peux mourir, je m'en fous, il y a un livre avec une couverture où il y a marqué Brassens, Prud'homme, Davodo. Alors évidemment, c'est le texte de Brassens, c'est dessiné par David. Et moi, je me suis chargé de faire le découpage de toutes les scènes, de réorganiser un peu le récit, d'enlever des trucs, de les remettre un peu dans l'ordre. On s'est formidablement amusé. Et tout ça nous a amené à côtoyer au plus près la plume de Brassens. C'était un voyage absolument hypnotique pour nous. Et le livre est sorti chez Delcourt, je ne sais plus, il y a une dizaine d'années. Tout ça pour vous dire que ce n'est pas du tout le cas de ce dont je voulais vous parler. Mais les lettres à Tousnaud de Brassens, ça n'a rien à voir avec ses chansons, ni avec son roman. Mais ça a à voir avec sa plume et l'espèce de chaleur exigeante qu'il avait avec les gens autour de lui. Tousnaud est un ami un peu philosophe de Brassens qui au sortir de la guerre, vit à Lyon. Brassens vit donc chez Jeanne dans l'impasse dont je viens de vous parler, l'impasse Florimont, qu'il a mis dans beaucoup de ses chansons. Il est dans une misère noire, c'est-à-dire qu'au sortir de la guerre, il souffre physiquement de la faim. Il ne mange pas tous les jours. Et parfois, il écrit. Il a avec Tousnaud une correspondance assez soutenue, une correspondance artistique, philosophique, politique, d'assez forte tenue. Ils s'écrivent presque tous les jours. Et parfois, Brassens dit à Tousnaud, bah, je ne t'ai pas écrit la semaine dernière parce que c'était soit acheter un timbre, soit acheter des pommes. Puis on a, pardon, excuse-nous, on était lâches, on a préféré acheter des pommes. Donc, ils sont à ce niveau-là de dénuement matériel. Mais intellectuellement, c'est un festival terrible. Ces deux types-là se répondent, se questionnent, se mettent en porte-à-faux. Ils ne se pardonnent rien, ils ne laissent rien passer. Et les lettres à Tousnaud, c'est un dialogue entre deux esprits brillants. Alors évidemment, l'un a laissé une marque plus nette que l'autre. Tousnaud est mort assez jeune, Brassens aussi, il est mort à 60 ans, mais bien après. Et c'est juste avant aussi l'envol de Brassens comme musicien. Et les lettres à Tousnaud, donc, qu'on trouve dans l'intégrale de Brassens, c'est une entrée dans l'intimité de Brassens, c'est à ce moment particulier de sa vie où il n'est pas encore connu, où il est très pauvre, mais où il a déjà en lui toutes les lectures. Il a passé des centaines d'heures dans les bibliothèques du 14e arrondissement parce qu'il n'avait pas les moyens d'acheter des livres. Et on sent qu'il s'est équipé, qu'il est gonflé à bloc. Son projet à l'époque, c'est d'écrire pour lui des poèmes, puis ensuite d'écrire des chansons pour d'autres, surtout pas de monter sur scène, puisque la scène, c'est un truc qui le terrorisait. Et puis il rencontre Patachou qui lui dit « Mais si, bah, tu vas monter sur scène, mon gars. » Et puis ça commence très rapidement. 2 ans après, c'est une vedette nationale puis internationale. Mais on est dans ce laps de temps juste avant. Il est encore dans la misère. Il ne sait pas ce qui va lui tomber dessus. Mais avec Tousnaud, il y a ce dialogue formidable. Donc si vous avez l'occasion de lire les lettres à Tousnaud dans l'intégrale des écrits de Brassens, je vous le conseille chaudement. J'étais un peu long sur ce coup-là, peut-être. On va déborder. Je vais vous parler de bande dessinée quand même. Alors ça, j'ai pas cette intégrale-là chez moi, mais elle est plutôt belle. Donc je vais vous parler d'un auteur qui s'appelle Causet, Bernard Causet, qui est un Suisse, qui fait de la bande dessinée. Donc là, on rentre dans la bande dessinée. Je vais vous parler d'un de ses livres de la série Jonathan. Il a fait une série de, je sais pas combien il y en a, une vingtaine peut-être. Donc là, on est dans les années, je dirais 1980. Moi, j'ai 15 ans. Je veux faire de la bande dessinée. Je connais rien à rien. Je connais personne. Évidemment, je suis loin. Je vis dans la campagne française, dans l'est de la France. J'ai aucune idée de ce que c'est qu'un éditeur. Je ne sais même pas comment on fait d'un livre de bande dessinée. Je suis très, très loin de toutes ces choses-là. Je lis massivement de la bande dessinée dès que j'en ai l'occasion. Mais je lis de la bande dessinée qu'on appelle franco-belge, c'est-à-dire, en gros, si je résume ça très vite, humour et action. C'est vachement bien, hein. J'ai adoré ça, j'en relis encore. En gros, c'est la bande dessinée Gaston Lagaffe, Astérix, Tintin, les gens de ma génération, moi j'ai bientôt 60 balais, on n'avait pas un choix gigantesque non plus. Enfin, la bande dessinée des années 60-70, elle était infiniment moins foisonnante qu'elle ne l'est maintenant. Maintenant, il y a 5000 et quelques titres qui sortent chaque année. À l'époque, ça devait être quelques dizaines, centaines peut-être. Et puis ceux qui arrivaient dans ma lointaine campagne étaient encore moins nombreux. Donc bref, j'en lisais beaucoup, j'en relisais beaucoup parce que j'avais pas beaucoup le choix. Mais pour moi, la bande dessinée, c'était Tintin, Astérix, Gaston Lagaffe, Achille Talon éventuellement. J'avais pas encore découvert Gottlieb, je crois. Donc j'étais loin de tout ça. Et dans un supermarché, je vois un livre où c'est marqué « Primé à Angoulême ». Je sais pas ce qu'est Angoulême non plus. Bon, voilà. Voilà c'est... Et c'était un livre qui s'appelait « Kate ». Et c'était le tome 7 de la série « Jonathan » d'un certain Cosset. J'ai aucune idée de quoi il s'agit, mais il se trouve que j'ai un peu de sous dans ma poche et j'achète ce bouquin. Alors, là, vous avez un gros livre parce que c'est une intégrale, mais c'est un format traditionnel de l'époque, donc 46 pages ou 50 pages. Ça se lit en 20 minutes parce que c'est très court. Donc, je ne sais pas, mu par une impulsion, j'achète Kate de Cosset et je prends le bus pour rentrer du lycée. Et j'ouvre ce bouquin dans le bus. Et je découvre un pan de la bande dessinée que je ne connais pas et qui va m'ouvrir des perspectives insoupçonnées. C'est-à-dire que la bande dessinée, je découvre que ce n'est pas forcément humour et action, que ça peut être aussi silence, hésitation, psychologie assez fine. Kate, c'est juste l'histoire d'un type qui est une sorte d'aventurier un peu baba cool qui se balade dans l'Himalaya et qui rencontre une fille un peu perdue. Je ne vais pas vous le résumer parce qu'il faut que vous le lisiez, puis ça se résume assez vite. Mais en fait, contextuellement, c'est pour ça que je vous en parle, c'est que contextuellement, quand on a 15 ans, qu'on vit dans le Maine-et-Loire, qu'on n'a jamais lu ce genre de choses, on se dit « Putain, mais la bande dessinée, ça peut être ça. Ben, je vais en faire. » Et ça se décide sur 20 minutes de lecture. Je me souviens avoir lu ce livre dans le bus entre mon lycée et la maison de mes parents. Et en descendant du bus, mes ambitions sur la bande dessinée avaient changé radicalement. Et après, évidemment, j'ai remonté la piste, comme on fait souvent quand on découvre un auteur qu'on aime bien. Donc j'ai racheté, dès que j'ai pu, les tomes 1 à 6 de Jonathan, puis après tous les suivants. Et puis après, j'ai fait une chose que je n'avais jamais fait, j'ai écrit à l'auteur. Je ne savais pas comment on faisait, il y avait le nom de l'éditeur, j'ai envoyé ça au pif, c'était en Belgique. C'était bien avant Internet, évidemment. Je n'ai jamais reçu de réponse, évidemment. Enfin, pas évidemment. Et puis j'ai suivi tous les livres de Cosset, et puis j'ai voulu faire de la bande dessinée. Je dis pas comme Cosset, mais il y a eu quelques années où j'ai voulu dessiner comme Cosset, tellement ça m'avait impacté. Je me suis débarrassé de ça assez vite, parce que c'est un piège terrible. Mais en tout cas, j'ai lu tous ces livres. Et puis, il s'est passé que j'ai... Je la fais courte. Mais voilà, un jour, j'ai publié un livre de bande dessinée. Et je continuais à lire les livres de Cosset. Puis je remarquais que ce type était publié dans une collection formidable qui s'appelait Air Libre. Air Libre, c'était chez Dupuis, et j'avais l'impression que là-bas, on faisait un peu ce qu'on voulait. On pouvait faire des bouquins beaucoup plus longs. On n'était pas obligé de faire des séries. Et puis les mecs parlaient de politique, parlaient... il y avait un propos qui était très loin de Gaston Lagaffe et Boulébile. Encore une fois, c'est pas mal, Gaston Lagaffe et Boulébile, mais on peut faire autre chose. Et moi, je me suis dit, voilà, puisque j'ai fait un livre de bande dessinée, je vais essayer d'en faire un deuxième, puis un troisième, je savais pas. Mais un jour, je devrais publier dans la même collection que Cosset. Alors j'envoyais mes projets à l'éditeur de Cosset, qui me répondait de façon assez argumentée. Vous êtes bien gentil, jeune homme, c'est votre démarche est charmante. Je résume. Vous êtes encore un peu tendre pour venir. Mais c'est sympa de nous proposer, mais non, on ne va pas prendre votre livre. Et donc voilà, c'est pas grave, j'ai réussi à publier des livres ailleurs qui ne marchaient pas. C'est un cas assez classique. Et puis un jour, l'éditeur en question m'a dit « Ok, votre livre, on va le faire ». Et donc, j'ai été publié dans la même collection que Bernard Cosset, que j'ai rencontré. Et puis, je dis, tu sais que je t'ai écrit il y a 25 ans. Tu ne m'as pas répondu. Il m'a dit, je ne me souviens pas, évidemment. Et donc, j'étais extrêmement... Alors, j'ai fait un livre qui s'appelle Chute de vélo, qui est dans la collection Air Libre, où je rejoignais les gens comme Cosset, comme Baru, comme tous ces gens qui, à l'adolescence, m'ont ouvert des portes sur une bande dessinée que je voulais faire. Et donc j'étais très fier de publier un livre dans cette collection. Il avait reçu un accueil plutôt chouette. Et je m'étais dit que j'étais enfin à l'endroit éditorial où je voulais faire mes livres. Sauf que voilà, les choses ne se passent pas toujours comme on veut. L'éditeur en question s'est fait virer. Moi, je voulais bosser avec ces gens-là, qui étaient des gens extrêmement précis et avec qui travailler, faire ses livres était très confortable, très stimulant. Donc je les ai suivis, ils refondaient une autre maison qui s'appelle Futuropolis, où je publie toujours mes livres maintenant. Donc j'ai fait quand même un passage chez Air Libre, mais beaucoup plus court que je pensais. Tout ça à cause d'un bouquin acheté dans un supermarché parce qu'il y avait un label grâce. Parce qu'il y avait un label prix à Angoulême. Voilà. C'est pour ça que je voulais vous faire lire les livres de Cosey, toute la série Jonathan, évidemment, à la recherche de Peter Pan, évidemment, qui est aussi un diptyque magnifique. Ça parle de montagne, ça parle de sentiments, c'est assez précis. Ça parle beaucoup du Tibet, parce qu'il a beaucoup voyagé au Tibet. Il n'y a pas beaucoup de mauvais livres de Cosey, on peut y aller en confiance. Voilà pour ça. Eh ben c'est le dernier. Encore un peu de bande dessinée quand même. Bon, alors évidemment, j'aurais pu prendre des choses moins connues. Mais je me dis ça là maintenant, mais trop tard. Tardi. C'était la guerre des tranchées. Au Japon, il y a des gens qui sont des trésors vivants nationaux, je sais pas quoi. Je pense que si ça existait en France, moi je mettrais Tardi tout de suite là-dedans. Il détesterait ça parce qu'il a horreur des honneurs. Mais c'est pas grave. Pour moi, Tardi, c'est un des auteurs vivants. Un des auteurs vivants les plus importants. Et je parle pas seulement de bande dessinée, là, je parle en général. C'est un des artistes vivants les plus importants à mes yeux parce qu'il a amené la bande dessinée dans des endroits où elle allait peu. Il le fait avec une constance, une rigueur, une espèce de probité qui, moi, m'épate à chaque fois. Alors, Tardi, il y a plusieurs veines. Hein. Il y a sa veine feuilleton avec Adèle... j'ai oublié le nom. Adèle Blanc-Sec, merci, je suis fatigué. Et puis, il y a son travail sur la guerre 14, notamment, qui est un truc absolument fascinant, qui est d'une précision... En fait, ces bandes dessinées-là servent aux historiens. C'est-à-dire que, voilà, il y a 30 ans, qu'un historien se serve de la bande dessinée, c'était juste inconcevable. Qui s'y intéresse même, c'était pas possible. Tardi a amené une précision documentaire. Alors, il ne le fait pas tout seul. Hein. Il y a des gens qui l'aident, notamment. Il y a un type qui s'appelle Jean-Pierre Vernant qui est très précis. Mais il a amené une précision documentaire sur ce qui se passait dans les tranchées en 14-18, à un point qui a été égalé nulle part, à mon avis. Et pour autant, les personnages que Tardi anime dans ces livres-là, c'est des vrais personnages de chair et d'émotion. C'est-à-dire que c'est pas du tout un travail... C'est un travail qui a une dimension scientifique, parce qu'il fait référence absolument. Mais par ailleurs, en termes romanesques, en termes d'intensité narrative, ces livres-là vous laissent pas intacts. Parce que je connais pas beaucoup d'autres exemples où on a une vision aussi précise de ce que pouvait être ce qui se passait, alors évidemment, j'y étais pas, mais dans les tranchées pendant la guerre 14-18. Et c'est une somme de travail monstrueuse. Alors, c'était les guerres des tranchées, c'est évidemment son grand classique que je vous conseille vraiment chaudement de lire. Le travail qu'il a fait plus récemment, qui s'appelle Stalag 2B, d'après les mémoires de son père prisonnier de guerre, c'est un truc absolument fascinant aussi. Et Tardi, il lâche pas la rampe, quoi. C'est-à-dire qu'il continue à travailler, il explore ça avec la même rigueur depuis des décennies, et son travail va rester de façon définitive dans l'histoire française, je pense, parce que peu de gens ont approché ces histoires-là, ces moments-là avec une véracité comme ça, quoi. Et graphiquement, c'est magnifique. Il y a une espèce d'ironie qui n'est jamais du cynisme, qui est formidable. Et voilà, il faut absolument lire Jacques Tardi parce que c'est un artiste français parmi les plus importants de mon point de vue. Voilà, alors, évidemment, il y a Adèle Blanc-Sec qui a tout le reste, mais qui a une veine assez différente, mais son travail sur la guerre 14 est vraiment intéressant. Dans la génération suivante, il y a par exemple le travail de Joe Sacco, qui, à mon avis, est un de ceux qui reprennent le flambeau derrière Tardi. Sacco est un journaliste, mais ce qu'il a fait sur la bande de Gaza, ce qu'il a fait sur la guerre en Bosnie, toutes ces enquêtes journalistiques doivent beaucoup, je crois, à Tardi. Et il n'y a pas grand monde qui atteint ce niveau-là, je pense. Donc voilà, c'est une lecture, disons, fiable. On en est où?
On a le temps.
On a le temps. Bah, j'étais un quart d'heure. Formidable. Hein. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.
Vous avez des questions?
Bonjour. Je voulais savoir justement par rapport à Tardi si vous étiez intéressé à faire des livres un peu historiques ou plus dans cette veine-là, même si vos livres sont déjà assez documentaires, je dirais, mais
Oui, alors c'est vrai que j'ai pas cette capacité à. Enfin, je suis beaucoup plus à l'aise dans un monde strictement contemporain. J'ai fait très peu d'incursions dans des récits du passé. Le seul que j'ai réellement fait, c'est Un homme est mort avec Chris, qui raconte une grève à Brest dans les années 50. Et merci. Et je suis rarement allé plus loin dans le temps, quoi. En fait, en tant que dessinateur, je trouve ça extrêmement compliqué. Je pose mon stylo sur la page et je me dis, OK, un interrupteur de lampe, c'était fait comment en 1950 ? Et j'arrête. Un interrupteur en 2024, je vois ce que c'est, j'en ai plein autour de moi, donc j'ai pas ce frein permanent. Dessiner une bagnole, dessiner un téléphone, dessiner des vêtements. Alors, c'est une discipline en soi, hein. C'est-à-dire que Tardi, le moindre casque, la moindre baïonnette, la moindre munition, le moindre véhicule, c'est validé, vérifié, il n'y a aucun doute, on peut y aller les yeux fermés. Mais c'est un travail en soi. Ce que fait Bourgeon sur la marine à voile, pareil, la moindre. Alors, je ne connais pas les termes techniques de la marine, mais enfin, tous ces voiliers sont admirablement conçus. Moi, j'ai besoin d'écrire de façon plus linéaire, donc je dessine des bagnoles qui passent dans ma rue, je dessine les téléphones que j'ai dans la main, je dessine le monde comme il va maintenant. Mais c'est vraiment une question d'appétence personnelle. Moi, je suis d'autant plus admiratif du travail de Tardi que je ne sais pas faire ça. C'est-à-dire que cette partie documentaire, cette partie documentation, j'ai l'impression que ça doit prendre un temps terrible, quoi. Il faut une rigueur et une patience que sans doute je n'ai pas. Et puis, par ailleurs, moi, j'ai le goût de raconter les choses qui se passent autour de moi. Donc, il se trouve que je vis en 2024, en ce moment, et que mes histoires, je les prends plutôt là. Mais c'est plutôt une incapacité qu'un choix, quoi, en fait. Je ne sais pas le faire, ça. Mais il le fait très bien.
Non ? Ben, on en reste là, alors. Un grand merci à Étienne Davodeau.
Merci à vous. Merci beaucoup.